9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Des religieuses abusées par des prêtres, c'est l'autre scandale qui fait trembler l'Église. À quelques jours du sommet sur les abus sexuels convoqué par le pape François au Vatican, un documentaire événement de la chaîne Arte donne la parole à ces femmes qui pensaient consacrer leur vie à Dieu et se retrouvent sous la coupe, sous l'emprise de curés prédateurs. Michel France, l'une de ces victimes qui a obtenu de l'Église de France une messe de réparation, sera en ligne avec nous. Et en studio, Éric Colomer, le producteur de cette enquête, dont le pape n'ignore rien, il nous l'expliquera. La France a accordé le droit d'asile à 45 000 personnes l'an dernier, c'est un record. Après avoir fui la guerre, dictature ou persécution, qui sont-ils? Comment les intégrer? Qu'est-ce qui les distingue des migrants économiques? Les réponses de Pascal Brice, qui a été le directeur de l'OFPRA, le gardien du droit d'asile pendant 6 ans. Et puis au générique ce dimanche, deux cinéastes. Le Québécois Denis Arcand, après le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, il signe une comédie policière, La Chute de l'Empire américain. Et l'ancien diplomate Antonin Baudry, l'auteur de Quai d'Orsay pour un formidable Chant du loup dans le monde des sous-marins.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Jeudi prochain au Vatican, initiative sans précédent, le pape François accueillera 120 évêques du monde entier pour un sommet sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables. L'Église veut montrer qu'elle est capable de se réformer. Hier, le pape a défroqué un ex-cardinal américain pour abus sexuels, une première historique. Mais voici d'autres révélations, d'autres scandales sexuels jusque-là complètement étouffés, passés sous silence. Il s'agit de religieuses abusées par des prêtres. Bonjour Éric Colomer.
Bonjour.
Vous avez produit pour Arte une enquête glaçante qui sera diffusée dans 2 semaines sur ces religieuses abusées. Ce documentaire, c'est 2 ans de travail, un grand nombre de témoignages inédits et accablants qui, d'après vous, ne sont pas isolés. Qu'est-ce qui vous permet de parler de crimes généralisés?
Eh bien écoutez, en fait, plusieurs choses. D'abord notre enquête qui a duré précisément 3 ans et les éléments que nous avons réunis. Il ne s'agissait pas que de recueillir des témoignages à l'intérieur de l'Église, puisque notre parti pris, c'est de ne donner la parole qu'à des religieux ou des religieuses, des prêtres ou des femmes abusées dans ce documentaire, mais aussi les documents qu'on s'est procurés. Et ces documents nous révèlent, ce sont des documents internes à l'Église, qui ont été transmis au Vatican depuis déjà près de 30 ans, qui sont des documents, des rapports de lanceuses d'alerte, des sœurs qui, à l'intérieur de l'Église, ont envoyé plusieurs fois des rapports et des missives pour dénoncer des abus sexuels sur les religieuses systémiques sur tous les continents.
Vous en parlez, Éric Colomer. Parmi ces victimes qui parlent pour la première fois, il y a donc Michel France qui, quelques temps après son entrée au Carmel, se voit proposer d'être accompagné par un prêtre, un dominicain, de bonne réputation. Voici dans votre documentaire le récit de sa rencontre.
Le père Marie-Dominique, dans la communauté, avait une réputation de saint homme. Donc, j'avais vraiment aucune question à me poser. Je suis entrée au parloir et le père m'a dit « Est-ce que vous permettez que je prenne votre main ?» Et il a commencé à embrasser chacun de mes doigts l'un après l'autre. Et puis, à chaque rencontre suivante, il est allé un peu plus loin dans l'intimité physique, je dirais, en glissant sa main sous ma robe, en prenant la mienne pour la glisser sous la sienne. Son explication, sa justification, c'était qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi parce qu'il savait, il sentait, il avait éprouvé dans la prière que j'en avais besoin et que c'était ce que Jésus voulait pour moi à travers lui. Il était, c'est une expression qu'il utilisait beaucoup, il était le petit instrument de Jésus.
Bonjour Michel France Pénaud.
Oui, bonjour monsieur.
Merci d'avoir accepté de parler sur Europe 1. C'est vous qu'on vient d'entendre. En réalité, cette emprise sexuelle, elle n'a pas duré 2 ans, elle a duré 25 ans, parce qu'après avoir quitté le couvent, le père Marie-Dominique vous a confié à son frère aîné, le père Thomas. Et aujourd'hui, vous ne parlez plus d'abus, vous parlez de viol.
Oui, parce que j'ai été mise au courant de la définition juridique du viol. Jusque-là, je pensais qu'un viol s'accompagnait forcément de violences physiques. Or, les deux pères Philippe, ni l'un ni l'autre, n'ont jamais exercé de la violence physique sur moi. Mais ils ont exercé une violence psychologique, une violence spirituelle, ce que on peut qualifier d'emprise. C'est le dominicain qui a réalisé une enquête sur les mœurs sexuelles du père Thomas Philippe, parle d'emprise.
Des viols sous emprise à cause de la honte, à cause de la peur, parce que, comme c'est dit dans le documentaire, dénoncer un prêtre, c'est dénoncer ou profaner l'Église?
D'abord, ces deux hommes avaient réussi à me faire croire qu'ils étaient vraiment les représentants de Dieu pour moi, qu'ils me faisaient connaître de vraies grâces mystiques. Et donc, j'étais comme une petite mouche prise dans une toile d'araignée et j'avais perdu ma liberté, en fait. Mmh. J'étais vraiment paralysée par l'influence de ces hommes qui, d'ailleurs, tous les deux, ont séduit beaucoup, beaucoup de personnes. Je suis vraiment loin d'être la seule.
Vous n'étiez pas seule. Et vous dites aussi que certains actes, vous les preniez comme une pénitence.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais entrée au Carmel avec le désir de vivre pour Dieu, avec Dieu. Et forcément, en lisant l'Évangile, on apprend qu'on doit suivre le Christ sur la croix. Donc la pénitence est une réalité qui fait partie du programme.
Michel France, le scandale est d'autant plus grand quand on apprend que le père Thomas avait été condamné pour abus sexuels dans les années 50, que le Vatican savait.
Oui, bon, évidemment, moi je l'ignorais, je l'ai appris seulement après que j'ai révélé les abus dont j'avais été victime. Donc en 2014-2015, jusque-là, je ne savais pas.
L'Église savait donc, et puis, épilogue exceptionnel, on le voit dans le film, une messe de réparation, une messe dédiée aux victimes, a été célébrée il y a 2 ans, vous y étiez. On entend l'évêque dire « Je demande pardon, l'Église a honte, a terriblement honte ». Vous avez accueilli cela comment ?
Alors d'abord, je dois préciser que cette messe a été accordée aux victimes du père Thomas à ma demande. Cette messe a eu lieu, a été programmée, a eu lieu. Et j'ai beaucoup apprécié l'homélie de Mgr Dornelas. J'ai apprécié qu'il exprime la honte de l'Église, qu'il demande pardon. Et c'était, pour moi, cette messe a été cet acte de réparation.
Merci beaucoup Michel France Pénaud d'avoir témoigné, religieuse abusée, le documentaire dans lequel vous apparaissez, vous témoignez. On continue d'en parler dans un instant avec son producteur Éric Colomer.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain. Europe 1,
c'est arrivé demain, c'est jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Avec Éric Colomer, le producteur de ce documentaire Choc religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église qui sera diffusé sur Arte le mardi 5 mars. Des pères Marie-Dominique, des pères Thomas, comme on vient d'en parler, il y en a beaucoup, Éric Colomer.
Alors, évidemment, il est impossible d'obtenir une statistique, de produire un chiffre ou un pourcentage précis. Ce que les fameuses lanceuses d'alerte dont on rapporte les rapports dans ce documentaire disent et diagnostiquent, mais bien d'autres témoins dans le film aussi, c'est que ces abus, s'ils ne sont pas quantifiables, sont systémiques. Ils le sont parce que c'est lié à la structure même de l'Église et à la posture du prêtre, qui a une autorité complète sur les religieuses et qui peut exercer une emprise, l'ascendant dont parlait Michel France tout à l'heure. Mmh. Un proche du pape qui s'appelle le père Hans Zollner témoigne dans ce film en nous disant que l'Église donne aux prêtres, au mal, un pouvoir, et je le cite précisément, au-delà de tout ce qui est permis. On comprend bien en écoutant Michel France que ce pouvoir au-delà de ce qui est permis est le problème fondamental qui permet ces abus sur les religieuses qui sont qualifiés de systémiques, mais pas uniquement par les auteurs de ce film, par nous-mêmes, mais également par ceux qui, dans l'Église, ont le courage de les dénoncer.
Ce qui est grave aussi, c'est que les pères Marie-Dominique et les pères Thomas, ils ont fait des émules, des disciples. Vous montrez qu'il y a une école du vice et qu'il y a eu d'autres prêtres à leur suite qui ont abusé de la même façon, qui ont eu les mêmes pratiques.
C'est cela qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a presque une instrumentalisation de la parole de Dieu. Une façon de revoir les commandements, en quelque sorte. C'est particulièrement vrai pour le père Marie-Dominique, qui a été le premier prêtre abuseur de Michel France. Ce père Marie-Dominique a fondé, après avoir abusé pendant plusieurs années de Michel France, une communauté Saint-Jean, à l'époque de Jean-Paul II, qui a essaimé 800 prêtres partout dans le monde et sur tous les continents, qui fait partie de ce qu'on a appelé les nouvelles communautés dans les années 80-90, qui participé au renouveau charismatique, au renouveau de l'Église. Elles étaient fortement soutenues par Jean-Paul II, et d'ailleurs le père Marie-Dominique, qui était un proche de Jean-Paul II. Dans ces communautés-là, on s'est permis, et le père Marie-Dominique s'est permis, d'édicter une doctrine qui s'appelait la doctrine d'amour-d'amitié, qui permettait de faire croire aux jeunes religieuses qui étaient abusées par le père Marie-Dominique, mais par de très nombreux prêtres qui étaient les émules du père Marie-Dominique, que c'est Dieu qui voulait cela pour elles.
François est le premier pape à évoquer les religieuses abusées. C'était il y a quelques semaines dans un avion. Il en a parlé. À ce moment-là, il connaissait les témoignages que vous avez recueillis, Éric Colomer.
Il connaissait les témoignages, l'intégralité de notre enquête, puisque depuis 8 mois, nous étions en négociation avec le Vatican pour que le pape reçoive 2 victimes qui témoignent dans notre film. Michel France, que vous avez entendu tout à l'heure, et Doris, qui est une religieuse d'origine allemande. Nous avons livré le menu de notre film. Nous avons demandé à ce que le pape les reçoive et que l'on puisse filmer. Ces négociations ont bien avancé. Puis nous avons fermé la porte mi-décembre quand on nous a annoncé que tout cela ne serait pas filmé et resterait confidentiel. À partir de cet instant-là, nos sources au Vatican, celles qui nous ont aidés à faire ce film, nous ont dit « Le Vatican va mettre en place une opération de communication pour couper l'herbe sous le pied à ce documentaire et ne pas subir l'acte d'accusation de ce documentaire, mais dénoncer, avant que vous ne le fassiez, cette problématique des religieuses abusées dans l'Église. »
D'où l'opération en cours en ce moment avec l'Église qui met carte sur table, qui convoque un sommet, on l'a dit, jeudi prochain sur les abus sexuels.
Oui, alors nous nous en réjouissons évidemment. Peu importe finalement que le pape parle avant nous ou pas de cette problématique, l'essentiel c'est que celle soit mise sur place publique.
Mais vous avez contribué à déclencher ce sommet, vous pensez ?
Oui. Écoutez, en tout cas, c'est ce que nous ont dit nos sources au Vatican. Pour être tout à fait modeste, cependant, nous ne sommes pas les premiers à parler de la question des abus de religieuses, mais nous sommes les premiers à avoir eu la chance d'avoir un financement de la part d'une chaîne comme Arte, qui nous a permis de travailler pendant 3 ans dessus, et de faire une somme qui nous a permis de faire une enquête systémique.
Et d'avoir autant de témoignages, évidemment. Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église, c'est donc un documentaire de Marie-Pierre Rimbaud, Éric Quintin avec Elisabeth Drévillon qui sera diffusé le mardi 5 mars en soirée à 20h50 sur Arte. Merci de nous en avoir parlé, Éric Colomer.
Europe 1.
Dans un instant, le droit d'asile. La France a accordé ce droit à 45 000 personnes l'an dernier. C'est un record. Ils ont fui la guerre, les dictatures ou les persécutions. Qui sont-ils et comment les intégrer ? Pascal Brice, qui a été le directeur de l'OFPRA, publie sur le fil de l'asile. Il sera notre invité. À tout de suite.
Europe 1. De 9h à 10h le dimanche, vous retrouvez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Pascal Brice.
Bonjour.
Vous avez dirigé l'OFPRA pendant 6 ans, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et vous racontez cette mission dans un livre qui paraît chez Fayard, Au fil de l'asile. L'asile, Pascal Brice, c'est pas la politique migratoire, comment le définir ? C'est un droit universel ?
Oui, c'est un droit universel qui racine très loin dans notre histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire de la Révolution française, la Constitution française, celles et ceux qui sont persécutés, qui fuient des guerres, des persécutions dans leur pays d'origine, ont le droit, nous avons même le devoir de les accueillir après avoir vérifié qu'effectivement ils ont de telles craintes dans leur pays d'origine.
Donc pour ceux qui sont persécutés ou qui viennent d'un pays où les droits fondamentaux ne sont pas respectés, c'est ça la définition ?
Oui, la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan, tant de pays aujourd'hui à travers le monde où des persécutions, parce que les personnes ont un engagement politique, une croyance religieuse, une appartenance ethnique, parfois même une orientation sexuelle, des homosexuels, des lesbiennes dans certains pays. Ce sont des persécutions. Ou alors parce qu'elles fuient des situations de guerre en Afghanistan, en Syrie. Tout ça est codifié par le droit international, la Convention de Genève, le droit européen. C'est vérifié par les officiers de protection de l'OFPRA. Et si les personnes relèvent bien de ces critères, alors elles ont droit à la protection au titre de l'asile.
Qui dresse les listes de pays sûrs et pays qui ne sont pas sûrs pour leurs ressortissants? C'est vous, c'est l'OFPRA. Hein,
oui, mais d'abord, il faut rappeler une chose qui est parfois perdue de vue par certains responsables politiques, c'est que tout étranger présent sur le territoire de la République, c'est la Constitution française qui le dit depuis 1793, a le droit à l'examen de sa demande d'asile, quel que soit son pays d'origine. Vous êtes étranger, vous êtes en France, vous dites « moi je suis persécuté », alors on va vérifier. Il existe par ailleurs ce qu'on appelle des listes de pays d'origine sûrs, qui sont établies en fait par le gouvernement. ce sont des pays qui respectent globalement la démocratie et l'état de droit. Alors du coup, l'OFPRA doit instruire plus vite, mais chacun a le droit à l'instruction de sa demande d'asile et aux garanties fondamentales dues à tout demandeur.
On se souvient de la façon dont la question avait été portée sur la place publique pour le Kosovo au moment de l'affaire Leonarda, considérée depuis 2015, je crois, comme un pays sûr et donc dont les ressortissants ne sont pas admissibles au droit d'asile. Pascal Brice, vous considérez avoir été le gardien de ce droit d'asile pendant 6 ans en France ?
Oui, nous le sommes, l'OFPRA l'est. Dans cette période difficile, ce droit d'asile, il est menacé. Il est menacé parce qu'on a affaire un peu partout dans le monde occidental à des crispations sociales, des crispations identitaires. Et effectivement, ma mission à la tête de l'OFPRA, institution indépendante, c'est garanti par la loi, ça a été de dire, de redire et dans les faits de faire en sorte que l'asile, ce soit l'asile et rien que l'asile, et qu'on ne se préoccupe pas d'autres considérations que l'application de ce droit international à la protection.
122 743 personnes réfugiés ont déposé des demandes d'asile l'an dernier en France. C'est un record, une hausse de 22% par rapport à 2017. Vous en avez accordé combien ?
45 000. 40% au total. Je veux redire.
Mais c'est quand
que
même un record, 45 000.
C'est un record, 45 000 en termes de nombre de personnes protégées. 122 000 demandeurs, c'est aussi un record, vous l'avez rappelé. Mais enfin, rappelons, l'Allemagne, 2015, 1 million.
Oui. Donc on est loin. Après, ça a décru. Hein,
on est loin, oui, très nettement. Oui. On est loin de la submersion. On est dans une situation où le nombre de demandeurs d'asile augmente. Dès lors que la politique migratoire en France et en Europe depuis 40 ans est fermée, bah au fond, j'utilise cette métaphore dans le livre, les exilés sont un peu dans un couloir où on a éteint les lumières de la migration économique légale, il reste juste la porte de l'asile. Alors les gens vont là, il revient à l'OFPRA de dire oui, vous relevez du droit d'asile, non, vous ne relevez pas.
Donc
du droit d'asile.
Donc il arrive que le droit d'asile soit détourné par les migrants économiques.
Je dirais que détourner est un terme que je n'utiliserai pas parce qu'il suppose une sorte de conscience, de volonté de contourner les choses. La réalité, je dirais à plat, c'est celle que vous dites. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où la seule voie encore ouverte, c'est l'asile. La migration économique légale, on a fermé toutes les portes les unes après les autres. Et donc, effectivement, il revient ensuite à l'OFPRA de décider qui relève du droit d'asile ou pas. Et l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque les personnes sont déboutées du droit d'asile, 60% de celles et ceux, les 122 000 qui ont demandé l'asile l'année dernière, ces personnes déboutées sont rarement reconduites vers leur pays d'origine. Donc, on est dans ce débat-là, dans lequel il faut absolument s'organiser, maîtriser les choses pour préserver ce qui nous était essentiel, c'est-à-dire le droit d'asile.
Oui, c'est 75 000 à peu près débouté l'an
c'est
dernier.
Ça.
Donc ces 45 000 avaient de bonnes raisons de fuir leur pays. Quel pays ? Ils venaient de...
Alors ce sont principalement des Afghans, des Soudanais, des Érythréens, des Syriens, des Irakiens. 7500 petites filles venues principalement d'Afrique de l'Ouest et fuyant un risque d'excision. Voilà, ce sont tout ça, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui relèvent du droit d'asile et qui ont le droit à la protection dans notre pays et pour lesquels je voudrais le souligner devant vous. L'enjeu, c'est aussi de les intégrer mieux dans notre pays à partir du moment où elles relèvent du droit
Comment
d'asile.
Comment sont-ils intégrés, Pascal Brice ?
Mal. Un des problèmes que nous vivons dans notre pays, un peu partout en Europe et dans le monde occidental, c'est la panne du système d'intégration. Et donc des politiques d'intégration particulièrement volontaristes, nous en avons besoin aussi pour sauver le droit d'asile.
Est-ce que c'est à la France et à un office national de prendre en charge cela quand vous voyez qu'un bateau comme l'Aquarius avec quelques dizaines de réfugiés provoque une crise européenne ? Est-ce qu'il ne faudrait pas une gestion européenne avec une agence européenne sur le modèle de l'OFPRA ?
Bien sûr, c'est l'un des enjeux devant nous. Je ne vous cache pas que je suis fier que nous ayons pu, au cours de tous ces mois, avec les équipes de l'OFPRA, aller en Espagne, en Italie, à Malte, auprès des passagers de l'Aquarius, les faire accueillir en France. Mais enfin, nous souffrons des défaillances majeures du système européen de l'asile. Ça ne marche pas. Il est urgent de mettre en place cette agence européenne de l'asile, de faire en sorte que lorsque les gens arrivent dans les ports européens, nous puissions, comme nous avons commencé à le faire avec d'autres pays européens, instruire la demande d'asile sur place. Il y a urgence à ce que nous construisions un système européen efficace et respectueux du droit, parce que moi j'ai une inquiétude dans la période, qui est que la tentation existe, elle n'est pas nouvelle, de dire « bon bah, les Européens ne veulent plus des demandeurs d'asile, ils sont incapables de s'organiser, donc on va confier ça à la Turquie, aux pays du sud de la Méditerranée ». Mais enfin, ce serait nous renier, ce serait aussi ajouter à l'instabilité dans ces pays-là. Donc ça, c'est vraiment une voie, et d'ailleurs le président de la République l'a dit très clairement, que nous ne pouvons pas emprunter. Donc il faut que l'Europe s'organise pour respecter le droit d'asile, contrôler ses frontières, accueillir les demandeurs d'asile et accueillir les réfugiés dans de bonnes conditions.
Votre mandat à l'OFPRA, Pascal Brice, s'est achevé le 28 décembre. Vous n'avez pas été reconduit. Pourquoi ? Trop indépendant ?
Peut-être, mais d'abord rappelons que dans la période, c'est peut-être bien de le redire, qu'un fonctionnaire n'est pas propriétaire de sa mission. Moi, j'étais prêt à poursuivre pour une autre ambition. de manière à ce que nous puissions répondre au mieux, répondre à la feuille de route que le président de la République a fixée. J'ai peut-être aussi touché au système, aux limites du système tel qu'il est aujourd'hui en France sur les politiques de l'asile. Défendre l'indépendance, on ne se fait pas que des amis quand on est très indépendant. Moi, j'ai toute confiance dans le fait que l'acquis de ce qu'est l'OFPRA, reconnu aujourd'hui, puisse poursuivre.
Et pour l'instant, vous n'avez pas de successeur encore. Merci Pascal Brice, sur le fil de l'asile, 6 ans à la direction de l'OFPRA. Votre récit paraît chez Fayard. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Mercredi prochain au cinéma, vous pourrez vous régaler d'une comédie québécoise. C'est Denis Arcand qui nous offre La Chute de l'Empire américain. Il est avec nous dans un instant.
Europe 1, c'est arrivé demain. Europe 1,
c'est arrivé demain. Continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Qui a oublié le déclin de l'Empire américain et cette bande d'amis universitaires québécois rassemblés dans un chalet qui passaient leur week-end à parler de sexe? C'était irrésistible, le texte se joue encore, et presque 35 ans plus tard, voici La Chute de l'Empire américain, où il est surtout question d'argent et aussi un peu de sexe. Bonjour Denis Arcand.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver, Montréal, au Québec, et certains de vos acteurs fétiches du déclin et des invasions barbares, Rémi Girard et Pierre Curzi, pour quoi? Un polar? Un film social?
Oh, tout à la fois, j'ai de la difficulté à mettre mes films dans une catégorie quelconque. Je sais pas trop. C'est à la fois un polar, c'est à la fois un film social, c'est à la fois une comédie, c'est à la fois un drame, c'est tout ça en même temps.
Oh, le drame est relativement léger.
C'est pas si grave.
Le point de départ, c'est un chauffeur-livreur qui se trouve témoin d'un hold-up, mais c'est lui qui part avec le magot, fortune qui doit échapper aux malfrats et aux policiers, qui va échapper grâce à une escort girl et un repris de justice qui sort de prison. Tous sont évidemment très bavards, parce que les dialogues sont toujours au centre de vos films, hein, Denis Arcand.
Oui, c'est ça. Et ce qu'il vous faut que vous précisiez, c'est que ce magot, qui est entre 10 et 12 millions de dollars, ouais, ce qui est beaucoup, ouais, c'est l'argent de la vente de drogue. Et donc, c'est des petits billets. Et donc, c'est de l'argent qui appartient à personne. Ce n'est pas des gens qui sont allés dévaliser une banque ou dévaliser quelqu'un. C'est la vente de la drogue, elle est là. Elle appartient donc théoriquement au crime organisé, mais enfin, elle ne leur appartient pas. Ils l'ont volée aux pauvres gens qui prenaient de la drogue, aux consommateurs de drogue. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, elle est comme dans une sorte de no man's land. Ce qui fait que le type qui se retrouve avec, il a un moment d'égarement, il les prend, il les met dans son camion. Et après, il met ça chez lui, dans son salon, et là, il se dit « qu'est-ce que je fais ?» C'est embêtant, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez à la pègre en disant « pardon, pour vos 12 millions, vous ne pouvez pas les passer chez moi. » Ou vous pouvez toujours téléphoner à la police et lui remettre ça, mais vous savez très bien, parce que mon héros est quelqu'un d'intelligent, que ça va disparaître dans le trou noir de l'État. Et que 12 millions pour une personne, c'est énorme.
Et vous pouvez passer à côté d'une vie rêvée, parce qu'il rêve d'une autre vie. Évidemment, votre héros, on va y venir. Les dialogues, le bonheur des dialogues de Denis Arcand, on va en entendre un extrait.
La plupart des grands écrivains étaient bêtes à manger du foin. Dostoïevski a vendu le manteau de fourrure de sa femme pour aller jouer au casino. Il était sûr de gagner, incapable de comprendre la loi des probabilités. Tolstoï interdisait à ses paysans de se faire vacciner. Louis-Ferdinand Céline s'est réfugié en Allemagne avec les derniers SS. Un fou furieux. Hemingway se prenait pour un boxeur. C'est pas des types brillants.
Tu vas me parler des philosophes?
Pire. Heidegger était nazi. Jean-Paul Sartre était stalinien. À la fin de sa vie, il chantait les louanges de Paul Pot. Althusser a étranglé sa femme. Aussi lamentable que les politiciens. George Bush, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, ce sont de pauvres insignifiants. Donald Trump.
63 millions d'Américains ont voté pour lui.
C'est sûr. Les imbéciles adorent les crétins.
Extrait de La Chute de l'Empire américain, film signé Denis Arcand, où on peut dire que tous vos personnages sont doubles. Ils sont en tout cas inattendus. C'est-à-dire que le livreur est docteur en philosophie, la prostituée à grand cœur, le truand a une morale, le flic est un peu sadique, la fliquette est un peu obsédée sexuelle, etc. C'est ça?
Non, pas du tout. C'est une bonne personne, c'est tout. Elle est prête à des gestes de générosité.
De générosité sexuelle. Personnage double, évidemment.
Oui, c'est pas juste double. Je pense que c'est juste parce que En général, mes films, mes scénarios sont le produit d'une très longue recherche. C'est pour ça que je fais des films seulement tous les 4 ou 5 ans.
C'est-à-dire que vous les avez rencontrés la vraie vie?
Dans la vraie vie, je les ai tous rencontrés. J'ai passé du temps avec eux, j'ai posé des questions, on est allé manger ensemble, on a pris un verre ensemble, etc. Et tout ça. Quand vous faites ça, en général, les personnages prennent de l'ampleur. Ils prennent de l'ampleur et de la complexité. Parce que dans la vie, quand on commence à connaître quelqu'un, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Et souvent, dans les films, les personnages sont un peu des cartons-pâtes. Parce que, bon, on les plaque là, parce que c'est un méchant, c'est un flic, c'est tout ce qu'on veut. Quand on s'intéresse à eux pour vrai, dans le réel, dans le vécu...
Ils ont leur complexité.
Ils deviennent complexes, ils deviennent à la fois bons et méchants, ils deviennent à la fois intelligents et un peu bêtes, etc. Et tout ça. Moi, c'est le genre de personnage que j'adore, puisque je trouve ça enrichissant, je trouve ça bien.
L'argent, il suscite des discours très contradictoires dans votre film. Denis Arcand, on voit bien à quel point il pourrit, il corrompt, et en même temps... Tout le monde en a envie hein, dans votre film. Il y a une forme de fascination-répulsion. Hein.
Oui, c'est pas juste ça. C'est que l'argent, théoriquement, il n'a pas de couleur, pas d'odeur. Il peut servir à plein de choses. Et pour les gens qui n'en ont pas du tout, c'est-à-dire les gens qui sont des SDF et qui dorment dans la rue et le copain du héros qui dit « tu sais pas ce que c'est que de ne pas savoir où tu vas dormir ce soir. » Et quand il pleut, quand il fait froid, c'est vraiment l'horreur. Bon ben, si on procure un toit à cet homme-là, et ça, l'argent peut le faire... C'est extraordinaire.
C'est l'une des plus belles scènes de votre film, Denis Arcand. En tout cas, l'une des plus émouvantes. L'intelligence est un handicap. C'est votre héros qui... C'est l'une des premières répliques du film.
Oui, c'est ça, parce qu'il est en train de se séparer de sa petite amie. Elle est un peu amère, puis elle lui dit « Si tu es si intelligent que tu le prétends, pourquoi est-ce que tu n'es pas président d'une banque ?» Et il dit « Ben voilà, parce que je suis trop intelligent. C'est un handicap. L'intelligence n'est pas un avantage, c'est un handicap. » Et c'est une phrase que j'avais entendue dite par un célèbre financier. Vous savez, en affaires, je ne crois pas que l'intelligence soit un avantage. Je pense que même c'est un handicap. Et c'est une phrase qui m'a hanté. Et elle me hante encore. J'y ai pensé pendant des années parce que j'imagine que c'est le même cas pour vous. On connaît des gens brillantissimes qui sont professeurs dans d'obscurs collèges ou qui habitent le plateau du Larzac. Ils méditent dans un coin et c'est des gens vraiment exceptionnels. Et en même temps, vous voyez aux nouvelles tous les jours des crétins qui sont dans des postes de commande, qui nous imposent leurs lois ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'on peut poursuivre une réflexion sur ce sujet-là, que des fois, il vaut mieux ne pas être trop brillant. Ça aide. Par contre, tout le film contredit cette première scène, parce Absolument. Qu'effectivement, le héros, plus l'escorte de luxe, plus l'ancien malfrat, etc., ils sont assez brillants ensemble
ils sont
et
très
ils
malins.
Vont réussir à tromper le système.
Très malin. La chute de l'Empire américain, film de Denis Arcand avec ce parler québécois qui fait notre joie. Il y a beaucoup de tabernacles, de... Calice dans votre film et autres jurons du cru. Un mot encore sur, je pense au dialogue du déclin de l'Empire américain. Je disais tout à l'heure, on parlait de sexe et de pénis et de taille et de clitoris, etc. Ouais. Vous pourriez tourner ça encore aujourd'hui?
Je ne sais pas, les gens me font peur avec ça parce qu'ils me disent, avec la rectitude politique qui s'installe, on pourrait peut-être plus parler de ça, surtout dans le climat du Me Too. Il y a un certain nombre de choses que les hommes ne peuvent plus dire des femmes, ou en tout cas, on leur reproche, etc. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça a été joué au théâtre l'année dernière à Montréal, et ils avaient à peu près respecté tous mes dialogues, et ça semblait plaire. Puis il y avait des gens très jeunes qui n'étaient pas là au moment de la sortie du film, puis qui avaient l'air de se régaler. Donc, c'est encore possible, probablement.
Merci à vous, Denis Arcand. La chute de l'Empire américain, c'est à voir à partir de mercredi prochain au cinéma.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Il a été diplomate auprès de Dominique de Villepin. Il en a fait une bande dessinée, Quai d'Orsay, et le voici, cinéaste. Antonin Baudry signe un film ambitieux, Le Chant du Loup. Il nous en parle dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec Cette Arrivée Demain sur Europe 1.
Voici à présent Le Chant du Loup, film inclassable. Comment le présenter? On peut dire que c'est un film de sous-marin, une super production française avec Omar Sy, Mathieu Kassovitz et Reda Kateb. Mais non, ça raconte l'histoire d'un jeune homme hypersensible, sensible au point d'avoir le don d'identifier chaque son qu'il entend. On le surnomme Oreille d'or. Mais pas du tout, c'est un film d'action sous les mers, un thriller militaire à base de dissuasion nucléaire. Enfin, c'est surtout un film sur l'amitié, l'amour et le sacrifice dans des situations extrêmes. Bonjour Antonin Baudry.
Bonjour.
C'est de votre premier film dont on parle, donc Le Chant du Loup. Vous cochez quelle case dans ce que j'ai dit?
Toutes.
Toutes? C'est-à-dire à la fois
C'est-à-dire, je dirais d'abord que c'est un film effectivement sur l'humain, sur la confiance, sur l'amour, ce que vous avez dit en dernier. C'est pour moi le
plus important.
Ouais, c'était
l'amitié, le sacrifice.
En tout cas, c'était mon fil au moment de l'écrire et de le tourner. Ouais.
Ouais, mais c'est pas seulement ça. Il faut rappeler votre parcours. Antonin Baudry, diplomate, membre du cabinet de Dominique de Villepin. Vous tirez de cette expérience chez Villepin une bande dessinée, Quai d'Orsay. Immense succès. Puis un film de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, dont vous êtes le co-scénariste. C'est comme ça qu'on passe de la diplomatie au cinéma?
Ça faisait très longtemps que je voulais faire des films, et c'est vrai que ça a été une étape importante pour moi. Bertrand Tavernier m'a appris beaucoup de choses, j'étais présent sur le plateau assez souvent, et ça m'a appris beaucoup de choses, mais tout ça remonte à bien plus tôt. En fait, j'ai toujours rêvé de faire des films, j'ai toujours rêvé de raconter des histoires. Simplement, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, j'avais le sentiment de ne pas connaître le monde, et donc il fallait le découvrir. C'est pour ça que je suis parti dans différents métiers, notamment la diplomatie. Et puis ensuite, je me suis dit, bon ben voilà, maintenant, ça serait bien de penser à réaliser ma passion.
Donc c'est un rêve d'enfant ou d'adolescent?
Oui. Ouais, ouais.
Alors c'est un rêve d'enfant qui se réalise avec un très très gros jouet, des grandes vedettes, on l'a dit, et un film qui n'a pas grand-chose à envier aux productions hollywoodiennes.
C'était pas un modèle, les productions hollywoodiennes, parce que, moi je suis comme tout le monde, j'aime bien ça, je regarde et tout, mais je trouve que c'est très normé quand même.
Mais il y a quelque chose d'hollywoodien, c'est le son. Si important, il a été produit... aux États-Unis, chez Lucasfilm.
Alors, il y avait une équipe française et une équipe américaine.
Ouais.
C'était d'ailleurs passionnant, ce travail sur les deux rives de l'Atlantique. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et donc oui, il y avait une partie du travail qui a été fait au Skywalker Ranch et une partie ici. Il y a eu de la recherche sonore aussi ici qui a été très importante pour le film.
Parce que le son tient une place absolument centrale, évidemment, à la fois dans l'intrigue et dans le travail des sous-mariniers et d'un de vos héros... Chantred, incarné par un jeune acteur formidable, François Civil, alias Oreille d'Or. On va écouter un extrait de votre film et une partie de ce son, magie du cinéma à la radio. Donc Chantred est à son poste de travail dans le sous-marin, en train d'écouter le bruit de la mer.
Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Très faible, évanescent. J'ai un rythme très lent. Du 4 temps. Une hélice à 4 pales, c'est étrange.
Étrange non, 4 pales c'est un cargo, c'est tout, c'est bon.
Non. Avec une trace aussi fine, ça peut être un truc très silencieux. Ça, c'est forcément un sous-marin.
Mais y a pas de sous-marin à 4 pales.
Je sais. Attends, si, j'ai un bruit transitoire en plus, là, dans la même trace.
Décidez-vous, les gars, c'est pas l'ONU ici.
Tu l'as, transitoire? Le transitoire, je l'ai aussi, mais pour moi, c'est du biologique. Cachalot malade, alors.
Pas de poésie. C'est un cachalot ou c'est pas un cachalot? C'est un sous-marin ou c'est pas un sous-marin? Parce que le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non?
Analyse en cours.
Alors, vas-y.
Sonar pour rien, là.
Sonar. Un sous-marin bien conduit, ça fait moins de bruit que la mer.
Voilà, on entend ce langage très technique, ce jargon de sous-marinier. Énorme travail de documentation pour rendre crédible et sans doute véritable cette immersion au sens propre, Antonin Baudry.
J'ai plongé dans des sous-marins plusieurs fois et en tout plusieurs dizaines de jours. Donc j'ai passé beaucoup de temps sous l'eau, j'ai écrit en partie sous l'eau.
Vous preniez des notes?
Ouais, et pour tout vous dire, en fait, ce langage franco-sous-marinier, si on peut dire,
oui.
je le trouve très poétique. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ces échos de voix qui se répondent, ces mots qu'on ne comprend pas tous, mais dont on comprend l'intention. Et voilà, il y a une fonction poétique dans ce langage, cette sorte de langue semi-étrangère.
Et votre film a été projeté il y a quelques jours, je crois, devant les sous-mariniers toulonnais. Ils se sont retrouvés?
Je crois que oui, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais les échos que j'ai eus, c'est que oui, ils étaient ravis. Vous savez, en fait, c'est des gens qui passent quand même plusieurs missions de 70 jours sous l'eau entre eux, loin de leurs amis et de leur famille, et leurs familles ne connaissent pas leur vie. Elles n'ont pas le droit de monter à bord. Et donc, c'est-à-dire que quand vous faites un film là-dessus, vous vous dites aussi que, quelque part, il faut faire attention à l'authenticité des choses pour ça aussi, parce que ça va être la façon dont leur fille, leur fils, leur maman va découvrir comment ils vivent.
Et pour vous, il y a eu un déclic, quelque chose, un épisode qui vous a amené au sous-marin?
C'était la première fois que je suis monté dans un sous-marin. Ouais. Ouais, j'étais complètement
fasciné
par les sons, justement, et par les sons et par les lumières. Cette espèce de magie, de voix qu'on entend qui se répondent en écho, et puis du son de l'océan qui passe dans les sonars, dans lequel on sent bien qu'il y a des choses dont on ne sait pas trop ce que c'est, est-ce que c'est un danger, pas un danger. Ça produit une impression très particulière. On est à la fois coupé du monde et à la fois on a l'impression d'être au cœur du monde. Enfin, c'est très, très étrange. Ouais.
Et c'est bien restitué évidemment dans le film. Et puis il y a un autre aspect de ce film qui vous ramène à votre premier métier, c'est-à-dire moins à la diplomatie qu'à la géopolitique, où on passe de la dissuasion nucléaire à la menace et de la menace à l'attaque. Le scénario tel qu'il est décrit, il est crédible, il est possible. Là aussi, vous avez tout vérifié, Antonin Baudry ?
Oui, l'idée, c'est tout ce que je raconte peut se passer, effectivement, demain, ou peut s'être passé ce matin sans qu'on le sache.
Ah bah, ça fait peur.
Bah oui, ça fait peur, oui. Et, mais enfin, en même temps, ça fait peur. Et en même temps, finalement, quand les êtres humains font leur travail et font confiance les uns les autres, ils arrivent à sauver ce qui doit être sauvé.
Oui, ça tient un peu de choses quand même. Hein.
Ça tient un peu de choses, mais moi, je crois beaucoup que... En fait, voilà, c'est les enjeux du monde d'aujourd'hui, on les connaît. Là, dans le film, on parle de dissuasion nucléaire, mais c'est un symbole d'autres menaces aussi. Mmh. C'est cette question-là. Et la question, c'est est-ce que c'est les systèmes en place qui peuvent justement sauver des menaces ? Alors, les systèmes en place, c'est quoi ? Bah, c'est les systèmes politiques, les jeux d'alliances internationaux, la dissuasion nucléaire, etc. Ou est-ce que c'est autre chose qui est effectivement la confiance que peuvent se faire des individus, l'amour, l'amitié qu'ils peuvent se porter, leur conscience humaine ? Ou est-ce que c'est un mélange de tout ça ?
On est vraiment dans le réel et dans le réel de la menace. On n'est plus dans James Bond où des dingues menacent de faire sauter la planète. Là, ce sont des puissances réelles avec un arsenal réel et des moyens nucléaires qui existent réellement et qui peuvent s'affronter demain si... je ne vais pas raconter, mais s'il y a un épisode comme celui que vous décrivez dans le film.
Oui, et puis vous savez, mais en même temps, moi, j'ai toujours adoré les tragédies grecques. Et finalement, d'ailleurs, j'ai aussi adoré les films d'action et je trouve que très souvent, ils reposent sur des ressorts très, très voisins. Et donc, c'est un peu ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire une tragédie grecque dans le monde d'aujourd'hui, dans des sous-marins nucléaires, et centrer sur le conflit intérieur entre une conscience, un engagement, un devoir, le conflit qui peut tout d'un coup à la fois être très intime et éclater au grand jour, et les relations humaines.
Et le chant du loup ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le chant du loup, c'est le son qu'on entend quand on est vraiment en danger. C'est dans un sous-marin, quand on est détecté par un sonar, on entend ce sonar. Et ça fait comme une espèce de sirène lointaine, un appel qui est à la fois très beau et très, très angoissant.
Le chant du loup, avec Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Omar Sy et François Civil. Ce sera mercredi prochain au cinéma. Merci beaucoup Antonin Baudry d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé demain, émission préparée par Marina Pruzès, réalisée par Sophie Mallier. Et après le chant du loup, le chant du grand rendez-vous.
Quand
j'entends au bout du couloir, bonjour Hélène Jouan.
Notre invité ce matin, François-Xavier Bellamy, c'est à nouveau en politique. Il a été désigné par Laurent Wauquiez, le président des Républicains, comme tête de liste pour les prochaines élections européennes. Ce sera le 26 mai prochain. François-Xavier Bellamy ne s'est pas fait que des amis, n'a pas que des amis. On va essayer de l'interroger aujourd'hui sur ce qu'il entend faire de l'Europe au Parlement européen, sur sa liste. Et puis aussi, on va l'interroger sur un certain nombre de débats d'actualité, puisque maintenant, c'est un homme politique comme un autre.
Et ce sera très intéressant à entendre. Le grand rendez-vous, donc, dans quelques minutes avec François-Xavier Bellamy. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain à 9h. Excellente journée, excellente semaine à l'écoute d'Europe 1.